certitude. Il put hésiter sur la route de sa conversion. Il ne douta jamais d'une institution que le Christ lui-même lui disait sur le point de s'écrouler. Mais le jeune converti ne pouvait pas comprendre un tel message. Paradoxalement, sa foi même s'y opposait. Que San Damiano menaça ruine était évident, mais non l'Église. C'était impensable. Elle était là pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Elle était l'Église, comme le ciel était le ciel. Pourtant, n'avait-il pas des yeux pour voir? De l'Église de 1200, on ne peut faire dans son ensemble qu'un tableau très sombre. Nul besoin d'en chercher les preuves chez ses adversaires. Les témoignages catholiques suffisent. En tout premier lieu, la multiplicité des bulles d'Innocent III contre les abus les plus scandaleux. Mais si le pape s'inquiétait du délabrement général en Europe, ces bulles comminatoires ne pouvaient pas grand-chose contre l'usure, la vénalité, les excès de table et l'intempérance sexuelle de beaucoup de prêtres et jusque dans les monastères. Le scandale était partout. Un luxe inouï se voyait dans l'Église. Luxe et luxure. On chansonnait les moines paillards. Des clercs défroqués couraient les routes et se répandaient en chansons agressives contre les dignitaires du clergé. Les vers latins de ces goliards étaient souvent admirables. Les Carmina Burana trouvent un écho dans l'enfer de Dante, ne serait-ce qu'au chant 19 sur la Simonie. La foi même se trouvait atteinte. Le cardinal Jacques de Vitry tournait les yeux vers l'église d'Orient et se posait des questions. Certes, les chrétiens fidèles ne manquaient pas. François connaissait des prêtres parfaits, mais il était loin d'ignorer que l'église traversait une crise de désordre. Ne l'aurait-il pas constaté de lui-même que les prédicateurs itinérants venus du Nord, de Lyon et de Milan, l'en auraient informé avec leur perpétuelle critique d'un épiscopat ravagé par le goût des richesses auquel ils opposaient la pauvreté évangélique? Comment leur donner tort sur ce point? Mais François tenait bon, pour la même raison qui faisait que le gros du peuple ne cédait pas sur l'essentiel. Au milieu de ces excès, l'Église gardait le pouvoir des clés, celui d'ouvrir les portes du paradis par l'absolution des péchés. François restait immuablement catholique. Des prêtres parfaits, il en avait connu au moins trois. Dans son enfance, le vieux chanoine de Saint-Georges qui racontait l'histoire de Saint-Georges et jetait le jeune garçon attentif dans la voie idéale de la chevalerie spirituelle dont il ne sortit jamais. Vint ensuite le prêtre de San Damiano, qui connaissait bien le jeune homme, et qui, le premier, se rendit compte qu'un François transformé se tenait devant lui, cherchant le Christ. Le troisième, enfin, fut ce bénédictin de Subasio, qui venait lui dire la messe chaque jour à la portion culte. Le 24 février 1208, c'est l'aube. Le murmure des paroles latines trouble à peine le silence dans la petite église romane perdue au milieu des chênes. À la lueur des deux cierges, le prêtre lit l'Évangile. François reconnaît au passage les versets encore mystérieux. Tout à l'heure, le moine va lui en révéler le sens. Voici le moment décisif. La messe est dite, les cierges éteints, la porte ouverte. François prend la route. L'autre. À partir de ce moment, François fut un autre homme. Tous les théologiens du monde réunis ne pourraient décrire cette transformation de l'être intérieur qui ne relève pas de notre psychologie classique. François laissait la place au Christ. Il restait homme, mais il était habité par le Christ. Le François d'hier,